dans l'Open Mic. Next up on the mic. Open Mic, Open Mic. L'Open Mic avec Marceau et Audrey Pinchot. Un Marceau tout seul, c'est correct. Open Mic, Open Mic. Un Marceau bien accompagné, c'est tellement mieux.
Bon, c'est un de ces matins qui ne se déroule pas comme prévu. Bienvenue dans l'Open Mic. Je m'appelle Audrey Pinchot, entourée ce matin de Max Larouche.
Oui.
Quelques minutes du moins. Et de Paul Lévesque qui a déjà fait son entrée. Salut Paul. Hey, je pense qu'on n'a pas le choix de commencer avec une circulation parce que c'est ce qui fait que Yann Marceau est un peu en retard ce matin. Il m'a appelé, il était 8h30 pour me dire « Hey, ça se peut que je me rende pas pour le show ». Là, je te l'avais dit, dans 1h30, on a le temps en masse. Voyons donc, tu te rendras pas pour le show. Non, non, tu comprends pas, Audrey. Depuis 6h30, je suis dans le trafic, je suis partie de la Beauce et c'est le bordel. Faut dire qu'un peu plus tôt, si je regarde ce qui s'est passé, là, il y a eu, de un, une panne de véhicule lourd, ce qui est toujours un peu plus difficile à déplacer. Et il y a aussi eu un accident sur la 73 direction nord, ce qui fait que ça a créé des dommages qui sont encore un peu présents. Si vous êtes sur la 73 nord, sur Robert Clich en ce moment, je vous dirais qu'à partir de la rue Beaulieu. Ça commence à ralentir jusqu'à l'entrée du pont Pierre-Laporte. Il y a des problèmes, évidemment, causés dû à ça à partir de la 20 aussi. Dans les deux directions, c'est difficile d'aller chercher le pont au moment où on se parle. Et le pont de Québec, c'est très, très au ralenti. Il faut dire qu'il y a l'avenue des hôtels qui est fermée au moment où on se parle, ce qui fait que c'est très, très difficile dans le secteur également. Fait que les gens qui sont sur la rive sud, c'est ça qui se passe. Il n'y a plus d'incidents à proprement dit, à moins que je me trompe, 88-971-1021. Et on a un Yann Marceau qui débarque avec ses lunettes fumées.
J'aurais même pas eu le temps de parler du match de ce soir,
Colin. T'aurais même pas eu le temps de faire ton bulletin. Crème, mais regarde, les écouteurs. Yann, bon matin.
Bon matin. Salut, Max. Merci. Merci, Max. C'est
on
gentil.
On est en train de mettre les gens en contexte. La circulation est faite. T'es arrivé après combien d'heures de trafic?
Je suis parti à 6h45 de Sainte-Marie-de-Beauce ce matin. Puis après ça, ben je m'en venais. J'ai resté quoi, un genre de deux heures et demie à peu près dans le trafic.
C'est fou, hein?
Le temps que ça débloque. Ce qu'on m'a raconté, je sais pas si c'est ça exactement. Là. On m'a dit que c'était une remorqueuse. Pas une remorqueuse,
panne
mais...
Panne de véhicule lourd.
Panne de véhicule lourd. Donc, c'est un camion avec une remorque. Fait que c'était un peu plus compliqué des fois de remorquer ça, là, surtout dans le trafic.
Un accident aussi.
Fait que c'est ça, on est là.
Bienvenue, bon matin. J'avais demandé à Paul, j'ai écrit à Paul, j'ai dit « Hey, si jamais ça te tente de te joindre, je suis tout seul à 10h. »
Ouais. Elle s'est demandé qui serait aussi bonne que Yannick. Ben,
c'est Paul.
Vois,
Paul Lévesque.
Ouais. Eh bien meilleur. On devrait être Paul le matin, le nom de show.
T'étais-tu stressé? On jasait de ça hors d'onde, Paul puis moi, de se dire, là, il y a deux situations. Là. Soit que tu lâches prise puis tu te dis « Regarde, je peux rien faire.
Ouais. »
Ou t'es en motadine puis tu tiens ton volant à deux mains.
Ben, je vais en profiter du fait que Paul Lévesque est là. Paul Lévesque, c'est une spécialiste du comportement humain. C'est une éducatrice spécialisée. Et il y a deux façons de réagir, comme tu le dis. J'ai longtemps été très réactif. Quand je pouvais pas avoir de contrôle sur quelque chose. Mais maintenant, on dirait que c'est peut-être l'âge, là, mais tu passes l'autre bord du mur. C'est-à-dire que là, tu dis, OK, ça prend un lâcher-prise. Mais avant de faire un lâcher-prise, tu dois te réfléchir. OK, je peux-tu changer quelque chose à la situation? Oui, je le fais. Je peux-tu changer quelque chose à la situation? Non, je le fais pas. Mais comment je peux faire pour passer un meilleur moment pendant que je peux pas changer cette situation-là? Puis ton cerveau s'active. Mais il y en a qui l'ont inné. Moi, ça a été longtemps, Paul, avant de comprendre ça. Quand il y a quelque chose que tu peux pas changer, accepte-le puis arrange-toi pour vivre la plus belle vie.
C'est dur.
Je pense que c'est comme un instrument de musique. Plus tu le pratiques, plus tu deviens bon.
Ah, c'est beau, ça.
Tout se pratique dans la vie. C'est peut-être pour ça qu'en vieillissant, on devient meilleur parce qu'on a plus de temps de pratique, en théorie. Moi, la première fois que ça m'est arrivé, c'est un matin où quelqu'un avait décidé de se jeter en bas du pont de Québec. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a plusieurs années. Quelqu'un était même décédé à Saint-Nicolas parce qu'il avait décidé de faire un U-turn parce qu'il y avait trop de... C'était une dame de Saint-Nicolas. Et je m'en vais donner une grosse conférence. Je suis sur le pont. Je pense que j'ai passé la journée sur le pont ou pas loin. Là, tu sais, j'étais pognée là. Puis, la phrase qui m'est venue, parce qu'à un moment donné, là, tu paniques, puis tu dis ça n'a pas de bon sens, puis tu penses à qu'est-ce qui va arriver de ton absence. C'est ça qui te rend anxieux. Mm-hmm. C'est si j'y arrive pas.
Les impacts.
Qu'est-ce qui va arriver? Puis, c'est là que la phrase m'est venue, vais-je en mourir? Pour vrai, là, c'est la phrase qui m'est venue, je vais-tu en mourir? Je me suis dit. Puis, la phrase m'est venue parce que je voyais que Tipit, lui, sur le pont, n'était pas sûr s'il allait mourir. Puis, c'était ça qui était grave, finalement. Mm-hmm. Puis j'entendais les gens qui avaient baissé leur vitre puis qui criaient « Jette-toi en bas! » parce que les gens voulaient passer.
Ah, il y en a qui vivent complètement fou dans ce genre de situation.
Ça, c'était le compte lâcher prise. Là. Ouais. C'était le contraire, tu comprends? Mais je pense que, effectivement, tu as deux choix. Ou tu restes dans l'espèce de sentiment de gravité, puis c'est là que mes deux petits mots sont importants. C'est-tu plate ou c'est grave? C'est sûr que si t'es une ambulance puis qu'il y a quelqu'un à l'autre bout qui est en train de faire un infarctus, tu vas peut-être être un petit peu plus, mais tu sais, c'est des gens souvent solides qui restent dans le corridor du contrôle. Mais à partir du moment où tu n'es plus rien, puis t'as bien dit ça, là, j'ai-tu fait tout ce qu'il fallait aujourd'hui? Bon, j'ai prévenu Audrey, j'ai fait ce que je pouvais. À partir du moment où j'ai fait tout ce que je pouvais, ben j'essaie de rendre ça agréable.
Le plus agréable possible. Oui. Je pense que, tu sais, moi, ça a été un long cheminement, là, parce que très souvent, j'étais réactif par rapport aux choses que je jugeais qui étaient... que je ne méritais pas. Voyons, je mène quand même une bonne vie. Là. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je mérite ça? Okay. Mais la vie n'est pas obligée d'être juste avec nous autres. Il me semble qu'on est profond en début de show. Je ne sais pas ce qui se passe. La vie n'est pas obligée d'être
c'est
juste...
C'est les jeux deep, Yann.
La vie n'est pas obligée d'être juste avec nous autres. La vie est fucking injuste. Là. On a rencontré un petit bébé de 8 ans qui est venu ici en studio. Il voulait la toune d'AC/DC puis il restait quelques heures. Puis le soir, là, je me suis couché puis je pensais au petit boy... qui est là, mon petit Big Boss Bouchard, je l'ai mis en autocollant sur le tableau. Le soir, je me suis couché, je me dis, Chris, à quoi ça sert tout ça, cette putain de vie-là, quand il y a des enfants qui viennent au monde, puis qui sont aux prises avec ce type de maladie-là, puis finalement, ils en décèdent. À quoi ça sert? À quoi ça mène? Y a-t-il quelque chose? Moi, je suis pas croyant. Malheureusement, j'aurais aimé croire en quelque chose, mais je suis pas croyant, mais je me dis, tu sais, s'il y a vraiment quelque chose qui légifère tout ça, tu sais, qui s'occupe de toutes les lois possibles, pourquoi on fait ça à des enfants, tu sais? Puis je suis revenu sur ce que je me suis toujours dit, c'est que la vie, elle n'est pas obligée d'être juste avec toi. Il faut juste que tu l'acceptes des fois quand il t'y arrive quelque chose qui est épouvantable. Puis tu as le droit d'être choqué, tu as le droit de pleurer. C'est juste qu'à un moment donné, il faut que tu passes à d'autres choses. T'sais. Puis je regarde les publications des parents de Big Boss Bouchard. T'sais. Une résilience. T'sais, ils ont de la peine, là. Mais on a une résilience et qu'on continue de vivre pour notre petit garçon, puis on le garde en vie dans la mémoire des gens. Mais c'est ça. La résilience, c'est long à apprendre. Mais il y en a qui l'ont inné. Moi, c'est pas ça, pas en tout.
Moi non plus.
Puis c'est ça. J'étais très réactionnaire parce que je disais, je fais les bonnes affaires. Pourquoi elle me quitte pour un plus riche, tu sais?
Bon, c'est peut-être plus complexe comme ça.
Il y a beaucoup de choses.
Mais c'était trop profond. Je fais les bonnes affaires. Pourquoi? Mais c'est ça. C'est d'accepter des fois que tu peux pas changer les choses. Puis tu deviens un homme tranquillement, main sûrement. Mais on devient un peu plus accompli en vieillissant, les boys. On lâche pas.
On a-tu besoin d'un troisième lien?
Je profiterai pas de ce qui s'est passé ce matin pour le dire. Mais ce qui me surprend, Paul puis Audrey, salut Audrey en passant.
Salut, Yann.
Ce qui me surprend, c'est le fait que les gens pognent pas plus les nerfs que ça. Parce que là, on était deux heures et demie dans le trafic, puis on bougeait pas. Tu sais, je parlais avec Audrey, puis je disais, ça bouge pas partout. J'étais acharné, genre, depuis deux heures. Ça bouge pas. Puis quand ça repartit, il y a des gens qui essayaient de faire la passe du coyote puant.
Ah, ça, là.
Tu sais, celle de « Hey, je fais semblant de m'en aller à Lévis, je fais semblant de m'en aller à Montréal, fait que je prends la voie de droite qui va super vite, puis à la dernière minute, finalement, je m'en allais à Québec. »
Oui, personne ne va s'en apercevoir.
Pis ça me surprend qu'il n'y ait pas de gens qui donnent un coup de volant. « Hey, toi, là, ça fait deux heures que j'atteins ça, toi, ça fait cinq minutes que tu arrives, je vais scraper ta journée, le gaz au fond, boum! »
Oui, mais je pense que quand ça fait deux heures que t'es dans le trafic, t'as pas le goût de rester là deux heures de plus parce que t'as créé un accident.
Oui, mais parce que toi, tu penses. Mais quand tu le vis, le moment, c'est tellement fâchant.
Oui, l'accumulation.
Tu sais, t'es pas méchante, mais t'as le goût de sortir de ton char et juste d'y péter la gueule.
Hey!
Ça sent, ça me ferait du bien. Ça, deux heures et demie, j'atteins site, là. C'est toi le coyote puant. Puis moi, je pars à chasse.
Fait que là, t'as fait quoi? T'as écouté la radio, de la musique, t'as bu ton café, t'as
réfléchi? J'ai écouté la radio. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bu mon café qui est maintenant rendu froid. Et c'est ça, j'ai attendu que le temps passe.
Tout simplement.
Après ça, il fallait que j'aille sortir mon chien parce que là, mon chien, ça allait sortir par ses yeux. Là.
Oh.
Pauvre petit
cœur. Ah, mais écoute, contente que tu sois officiellement arrivé parmi nous.
Je suis là.
Bon jeudi.
De quoi on parle tantôt avec capitaine Cheveux Rouges?
Oui,
on parle.
Qui est arrivé à ton secours, tu m'en devras une.
Absolument.
Quand même,
ah oui. Ah, oui. Puis écoute,
j'ai tout lâché ce que je faisais. Là.
Je te remercie encore à ce jour. Le pire, c'est qu'il n'y avait pas de drame. On dirait que je me disais, ben regarde, si on peut commencer le show ensemble, ce serait le fun. On parle des conseils aujourd'hui pour éviter les tensions relationnelles. Puis là, on ne parle pas nécessairement de couple. Paul, tu me dis si je me trompe,
non.
Mais de toutes les relations.
Absolument.
Travail, famille,
oui,
amical.
Oui.
Quand tu te rends compte que ton collègue de travail, c'est un psychopathe.
Comment tu gères ça? Parce qu'on a des questions, Yann et moi.
les collègues narcissiques. Comment on gère ça? Les gens qui ont le syndrome de Peter, tu sais, qui ont atteint comme le palier, le pouf, ils peuvent plus monter plus haut. Tu sais, le principe de Peter, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça.
Ça, c'est-tu les gens qui pètent plus haut que le trou, mettons?
Non,
bon
c'est
Québécois,
des gens qui ont tellement monté dans la hiérarchie qu'à un moment donné... Le step plus haut, c'est l'incompétence.
Ah, je comprends.
S'ils montent encore plus haut, ça va être encore plus d'incompétence. Fait qu'ils sont rendus une place, puis ça, ben, dans tous les milieux de travail, il y a ça, des gens qui ont entendu le principe de Peter, c'est ils sont rendus une place qu'ils ne peuvent plus monter plus haut. Puis ça, c'est ingrat tant pour les employés qui sont en dessous que pour la personne qui le vit, qui essaie de montrer qu'elle méritait ce poste-là, mais est rendue trop haut.
Mais j'ai de la misère à saisir. C'est-tu quelqu'un qui, justement, a tellement de compétences que maintenant, il est au top et il ne peut plus monter?
On peut atteindre le principe de Peter. Toi puis moi, là, mettons qu'on est des carriéristes, là,
ouais.
On va monter dans l'entreprise, on va avoir divers postes, puis là, ça monte. Puis là, tout d'un coup, pouf, le gars, il est nommé VP, exemple, d'une entreprise, puis ça ne fonctionne pas. Alors que toutes les fois où il a monté, il réussissait à montrer à tout le monde autour, puis ainsi qu'à lui-même, que c'était le meilleur pour avoir ce poste-là.
Je te suis.
Puis à un moment donné, pouf, on le met VP, puis ça marche pas.
Il a dépassé sa capacité de répondre à ce poste-là.
Principe de Peter.
C'est intéressant.
C'est super intéressant, mais ça, c'est frustrant tant pour la personne, mais surtout pour les employés qui sont en dessous en disant... Pourquoi il est rendu là, lui? Ça, ça n'a pas de maudit bon sens, tu sais. Y a-tu couché avec le boss? As-tu couché avec le boss?
Mais des fois, c'est ça.
C'est jamais arrivé? Non, ça arrive jamais,
non,
ça.
Mais des fois, là, jamais. Hypothétiquement, mais...
Non. Un boss de 45 ans qui se respecte avec une jeune secrétaire de 25 ans.
Jamais.
C'est jamais arrivé.
On n'appelle plus ça secrétaire. C'est agent de bureau.
C'est vrai.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Parce que c'est réducteur, secrétaire.
Oui.
Ben, pourtant, non.
Ben, je pense qu'on a fait.
C'est qu'il y a trop de secrétaires des films porno.
C'est devenu un cliché.
C'est
devenu un cliché.
On a fait nous-mêmes une caricature, fait que c'est plus tout à fait approprié.
Bon, bien là, contrairement à tout ce qu'on dit depuis les derniers jours, c'est pas de la faute à Trump, c'est de la faute à Pornhub.
Voilà.
Oui, exact, mais Pornhub, c'est montréalais, fait que... Moins 11 degrés sur Québec aujourd'hui, je sais pas comment ça va se passer votre journée, mais si vous avez des collègues masculins, même des filles, là, qui suivent un peu le hockey, vous allez entendre énormément parler de la game ce soir qui va débuter à 20h. Nous autres, on va aller faire un tour dans un petit bar sportif.
Owen Bar, au Normandais, ça va être le fun.
Owen Bar, on est peut-être 10-20 là, à ce qu'on m'a dit. Fait qu'on va aller passer la soirée là avec les copains. Puis, écoute, j'ai tellement hâte de voir le match de hockey. T'as pas idée. Moi, je me souviens encore du jour où Sidney Crosby avait fait gagner la médaille d'or aux Olympiques. On était à Cage au Sport sur Laurier dans le temps. C'était l'après-midi. Puis quand Sidney Crosby a compté le but qui faisait en sorte qu'on gagnait les méchants de l'autre côté, le toit de la cage... J'étais persuadé qu'elle allait lever de terre tellement que ça a crié fort. C'était juste hallucinant. Donc, j'espère revivre ça ce soir. J'espère que le match va être serré jusqu'à la fin. J'espère qu'il va y avoir une période supplémentaire de 10 minutes 3 contre 3 où on va être debout et on sera plus capable de respirer tellement qu'on va douter de ce qui va se passer.
Je trouve ça excitant, ces moments-là. Puis, Paul, est-ce que tu suis un peu
Mais moi, je suis capable même de faire ma prédiction pour ce soir.
C'est les États-Unis qui vont gagner?
Non, c'est le Canada qui gagne 4-3.
Ah, 4-3?
C'est ma prédiction, là, vous l'aurez enregistré.
Ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, parfois, là, j'ai le sentiment que ces événements-là, comme la confrontation des quatre nations, ça permet à des gens qui ne suivent pas nécessairement le sport en tout temps de se joindre un peu à la folie pour un moment. Tu sais, moi, je ne connais pas les noms des joueurs. J'écoute une game de hockey, évidemment, de temps en temps, du Canadien avec mon chum, puis j'aime le sport, mais je vais voler les mots de notre collègue Véro Bergeron. Je suis une fille d'événements. Quand il y a des événements sportifs, ça me fait triper l'ambiance, l'engouement. Fait que ce soir, super énervé. Parce que là, c'est sur une courte période, simple à comprendre. Tu es à game, tu votes pour ton pays, c'est le fun. J'ai l'impression qu'on est beaucoup à se sentir de même. Je trouve ça le fun.
Ben, j'aime l'idée que ça soit une fille d'événement, parce que je pense que je viens de me titrer. Là. Je savais pas où me placer dans quelle case.
Ouais.
Moi, je suis pas mal comme ça. Tu sais, je suis pas le football, mais Super Bowl, j'étais là, puis J'ai gagné le pari en plus. Alors, je vous le dis, 4 à 3.
4-3.
Je l'enregistre, okay. C'est bon ça.
Donc, c'est la confrontation des quatre nations ce soir. C'est la grande finale Canada contre États-Unis. Ça débute à 20h. J'ai vu le message de Donald Trump qui a posté là-dessus. Je trouve ça intéressant parce que j'imagine que Justin Trudeau, dans les prochaines secondes, va dire « Je voudrais savoir dans quelle salle au Canada serait présenté le film Barbie. J'aimerais aller voir ça avec mon fils. » Trump, lui, dit « Je vais appeler notre grande équipe américaine de hockey ce matin pour les encourager à la victoire de ce soir contre le Canada, qui, avec ses impôts beaucoup plus bas et une sécurité bien plus forte, deviendra peut-être un jour, peut-être bientôt, notre précieuse et très importante 51e État. Je prendrai la parole ce soir devant les gouverneurs à Washington, D.C. et je ne pourrai donc malheureusement pas assister au match, mais nous regarderons tous et si le gouverneur Trudeau souhaite se joindre à nous, il sera le bienvenu. Bonne chance à tout le monde et passez un excellent match ce soir, tellement excitant. »
Là, il faut qu'on gagne.
Mais là, ça prend un genre de François Legault qui sort puis qui s'adresse à Trump, là, qui fasse une gageure avec Trump.
Oui.
Ou encore un Justin Trudeau qui sort du cinéma pour son film Barbie puis qui dit « Trump, mon gros orange, j'ai quelque chose à te dire, je m'adresse à la nation puis t'as intérêt à écouter. »
On va gagner. Il faut qu'on gagne.
Ben, la meilleure réplique, c'est ça.
Hein?
Envers et contre tous, ça.
Je souhaite que ça mette le feu derrière de nos joueurs canadiens ce soir,
oui.
Pour vrai.
Ouais. Et
oui.
Si on mettait le Canada ou les États-Unis en jeu?
Hé! Hey, j'irai peut-être pas là, Yann.
Hein?
J'ai confiance en le Canada, là, mais je suis pas sûre.
C'est un gros pari, quand même.
C'est un gros pari.
On est gambler ou on l'est pas. Sur la route, comment ça se passe?
Ben, vous rappelez que sur la 73, direction nord, avec tous les événements de ce matin, il y a encore du trafic à partir de l'avenue de la Rotonde. C'est encore super difficile jusqu'à l'entrée du pont, évidemment. Difficile à partir de la 20 également. Quoi que ce soit, 88-971-1021, texto.
On lâche pas, les amis. C'est moins 11 degrés sur Québec. C'est de la petite neige pour aujourd'hui. Ça devrait s'estomper par la suite. Minimum de moins 13, un maximum de moins 5 degrés. Bob Bissonnette dans nos oreilles avec Hockey dans la rue sur les ondes de boulevard. Merci d'être là. Paul Lévesque va être avec nous après ça. Comment ça va, Mme Pinchot?
Ça va bien.
10h28. Passez une belle soirée hier. On n'a pas parlé de toi. J'ai l'air un peu ingrat.
Hey, arrête, mon Dieu.
Qu'est-ce que t'as fait hier?
J'ai pas besoin de parler de moi.
T'étais-tu avec petit chum? Tu sais, la petite routine, on écoute un film ensemble, puis après ça, on s'en va se coucher.
On s'est pas vu encore, mon chum, puis moi, c'est.
Mets tes bigoudis.
Oui, j'ai dit, regarde-moi en face. Regarde-moi en face. Non, mais hier, j'étais chez la kiffeuse. Je sais que t'as pas remarqué. Je m'attendais pas à ce que tu.
Qu'est-ce que t'as fait, hein?
Pour vrai, il y a zéro différence pour toi.
Non. Est-ce que les autres t'en ont parlé?
Ben là, c'est ça, moi, j'ai flyé direct ici, j'ai okay. Pas croisé grand monde.
Y a-tu des gens qui t'en ont parlé? Mettons, petit chum, il t'a-tu vu?
Ben non, mon chum m'a pas vu encore.
Il t'a pas
c'est
vu
les
encore.
Derniers à remarquer en passant, souvent. Hein?
Ben, ouais. Mon chum a remarqué oui. Ce changement-là parce que j'ai pâli, puis il préfère mes cheveux pâles que foncés.
OK.
Mais je te donne quelque chose, par exemple, Yann, c'est très naturel et subtil. Je suis revenue à ma couleur naturelle, en fait.
OK. Fait que t'as pâli tes cheveux?
Oui, ils ont pâli.
Moi, je l'ai pas remarqué. Ça coûte combien, hein?
Ça m'a coûté 375 $.
Ben non. C'est bien cher. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un balayage?
Oui, non, mais c'est quoi? Ça. Moi, à la base, je suis châtaigne très pâle blondinette. 375.
Okay.
Là-dessus, enlève, mettons, un 25$, je me suis acheté un produit. Okay. Là.
Mais mettons 400. Okay, ça a coûté 400. Toi, t'es employé, c'est chez Leclerc Communication. T'es pas actionnaire, t'as pas d'entreprise à part.
Non, c'est ça.
OK, mettons que ça a coûté 400. Quand tu reçois ta paye, là...
Ben Yann, je me souviens qu'on est fan de pied.
T'as vu ce qui est enlevé?
Oui, j'ai vu ce qui
fait que ton 400, il a fallu que tu ramasses 800$
oui,
pour payer ton 400.
Je sais. Ouais. Mais il y a une chose, par exemple, parce que là, je veux venir à la défense des coloristes et des coiffeuses. Et parce qu'aujourd'hui, les techniques sont assez exceptionnelles.
Ah, ils ont des études d'astronautes.
J'ai pas des... Attends, il y a de la formation qui... j'ai mangé mon micro sur un temps, là. Il y a de la formation qui se fait un peu partout. Ils se tiennent vraiment tout le temps au courant d'eux. Puis c'est sûr que le salon dans lequel je vais, c'est un très, très bon salon. Et moi, leur produit, ma couleur naturelle, au point où j'aurais pas à y retourner avant des mois et des mois.
Ouais,
là, j'ai pas à entretenir. J'entretiens pas mes cheveux parce que.
Mais
quand
c'est quand même. Je veux juste. Pareil, là.
C'est
trouve
dispendu.
Que l'écart est devenu vite.
C'est
parce qu'il y a pas si longtemps, là, puis je suis pas née dans les années 20, là. Il y a pas si longtemps, Yannick, je te défends de faire un commentaire. Hey, je suis venue te sauver
pas
le
si
cul
longtemps,
de faire quelque chose.
Il n'y a pas si longtemps, en 1933.
La
Il va chier manger la marde. Je peux pas croire que je suis en cours avec lui. Non, mais je peux pas croire.
Abandonne-moi pas, moi, s'il te plaît.
Non, mais c'est pour toi, je le faisais bien plus.
Il y a pas si longtemps, mettons 10-20 ans à peu près.
Non, mais avoue comment ça l'a. Ben non, ça a coupé carré. Tu sais, à un moment donné, il y a une évolution douce, mais.
Mais tu payes le temps de la main-d'œuvre aussi.
Ah, t'es rendu à 300-400$.
Pour... J'étais là 3h30.
Puis les techniques se sont développées, ce qui fait en sorte qu'il faut qu'ils aillent se faire enseigner ces techniques-là.
C'est beaucoup, là.
Les produits, les études
c'est
pour créer
justifié.
Ces produits-là. Mais tu sais, je veux dire, il y a Christian qui pose une question, Audrey. Je pense que c'est une question très pertinente, là. Combien ça t'aurait coûté? Parce que là, tu as dit que tu es revenu à ta couleur naturelle. Et Christian dit, mettons que tu avais attendu un peu plus longtemps, là, ça t'aurait coûté combien de laisser pousser tes cheveux, mettons?
Ben là, 4
ans. Il y aurait une repousse?
Ben, il y aurait une repousse, oui, mais c'est une bonne question, mais Christian, c'est pas... Regarde! Non, mais il y a quelque chose, par exemple, que je veux dire. Tu sais, les gars, la coupe a beaucoup augmenté chez les hommes aussi. Là, 40 piastres. Des salons qui sont rendus à 40 piastres, là, tu sais. Puis une époque où c'était 15 piastres.
Ben, moi, je paye pas
les
ça.
Les gars...
Tu te le fais toi-même.
Vous y allez en moyenne, quoi, aux 2-3 semaines pour garder ça clean, mettons, là?
Moi, c'est au genre aux 3-4 mois, là.
Aux 3-4 mois?
Ouais, à peu près.
Voyons donc, tes cheveux te poussent donc même pas vite.
Ouais.
Et mon Dieu, moi, mon chum, je veux dire, il doit prendre un pouce par semaine, c'est ridicule. Puis il y va pas souvent.
Mais là, tu parles de virilité ici.
Ouais, c'est ça. Je l'ai vu en chest. Il y en a partout sur le chest, il y en a dans le dos, il y en a partout.
Puis il est fourni. C'est ça. Mais il y a des gars, bon, je vais y aller avec une moyenne, mettons, de 2-3 semaines. 40$ aux 2-3 semaines. Tu sais, moi, j'y vais aux 6 mois. Fait que j'ai comme l'impression que ça se balance un peu à un moment donné, tu sais. Puis c'est aussi un moment personnel. Tu sais, moi, ma coloriste s'est rendue une amie, là, avec le temps, puis...
Ça coûte moins cher, le psychologue.
Oui, aussi, tu sais, je peux se passer mes rendez-vous. Non, mais sans blague, je te le donne pas.
Elle m'enlève l'ouvrage, finalement.
C'est ça. C'est vraiment dispendieux parce que la technique. Si, mettons, j'y faisais teindre tout blond, tout brun, sans reflet, sans rien, probablement que ça me coûterait 80$. Mais là, je pense que c'est le temps, effectivement, les produits pour pas abîmer les cheveux parce que c'est un blond, c'est du décolorant. C'est beaucoup, beaucoup de niaisage.
Mais c'est sûr que c'est justifié, mais on peut quand même se dire qu'en peu de temps...
C'est vraiment cher.
Puis tu sais, moi, là, ma préoccupation là-dedans, c'est de dire... Ben finalement, il y a juste le monde qui a de l'argent qui peuvent aller chez la coiffeuse.
Oui, non, mais visiblement, oui.
Hein? Oui, pour vrai, oui.
Non, tu disais, ça me fait du bien, je peux prendre soin de moi. Moi, c'est un choix temps que pour je moi. Fais, oui. Mais ce qui est triste, c'est qu'il y en a qui voudraient faire ce choix-là.
Ouais. Ils ne pourraient pas.
Ils n'en ont même plus accès.
Audrey, il y a Rénal, que je salue, qui dit, en passant, t'es allé le 28 novembre chez la coiffeuse.
Ils tiennent un registre.
OK, Rénald. Il y a Rénald a un point, mais j'ai un contre-argument.
Justifie-toi pas. Rappelle-toi ce qu'on a prêté.
Il y a beaucoup de jugements actuellement par texto 88-971-102.
Mais j'ai une explication qui est vraiment claire.
Oui.
OK. Quand je suis partie 3 semaines en arrêt, je vous en ai glissé un mot avant Noël, j'ai comme pété une crise mentale dans 5e allée du Jean Coutu où j'ai décidé pour la première fois de ma vie que je m'achetais une teinture de pharmacie.
Comment ça coûtait?
10$. Puis j'ai teint mes cheveux brun vraiment foncé, ce qui n'est pas ma couleur naturelle, mais vraiment pas. Qui m'allait pas mal, mais comme... T'es correct, tu sais. Fait quand ma coloriste a su et a vu, ben là, elle était comme, faut rescaper le problème, là. Fait que le rendez-vous de novembre était pour aider à, comme, ramener la balance à la bonne place. Parce que cette teinture-là que j'avais choisie n'était pas la meilleure qualité, la meilleure. J'étais en train de virer rousse un peu, puis c'était correct, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'étais allée en novembre.
Ouais. Il y a Guillaume qui écrit, dit, au prix qu'Audrey a payé, on peut s'acheter un Xbox Series S.
C'est vrai.
Série S, un écran gaming 27 pouces
mais vous
et
avez
environ
raison,
4
là.
Jeux neufs.
Il y a quelque chose d'autre, par exemple, qui est intéressant, là, pour être déjà allé... Mon chum vient de la Mauricie, OK? Et lui, il a la même coiffeuse depuis... Toujours. Karine, je la salue. Quand je suis dans le coin, je vais la voir pour faire couper mes cheveux de temps en temps. Puis Karine a encore des prix... Puis là, je veux que ça soit clair, là, je veux pas que ce soit réducteur, mais elle a des prix de Shawinigan. Tu sais, des prix dans le sens de quand tu t'éloignes un peu de la ville. Tandis que quand tu es en ville, ben malheureusement, la compétition fait que, ben oui, c'est des 300-400$ pour des têtes aujourd'hui. Puis c'est excessivement cher, là, puis j'en suis très consciente.
Nathalie m'écrit. Bonjour, Yann. Moi, je vais une fois par année laver, couper, teinture, démaquillant pour cheveux. Puis le prix pour elle, c'est 185 $.
Je sais, je comprends. Mmh. J'ai rien pour ma défense.
Mais bref, je sens que tu es un peu tendu parce que là, on te confronte.
Ben, oui, c'est hein? Ben,
comment on fait pour éviter les tensions entre collègues ou entre amoureux, amoureuses ou entre amis? Les tensions relationnelles, on fait quoi? On commence par quoi?
Ben, ce qui est intéressant, c'est
on parle pas d'argent, on parle pas de politique, on parle pas de Donald Trump.
Ben,
on s'en va des mimes. Là, et on ne communique plus.
La chronique d'aujourd'hui, c'est préventif pour éviter les conflits. Oui. Alors, je demanderai à Yannick d'être très, très attentif à notre chronique d'aujourd'hui. Puis là, on va dire que c'est toutes les chaises sur lesquelles tu es assis.
Oui.
On ne vise pas un endroit plus qu'un autre. C'est quelque chose à pratiquer dans toutes les sphères de ta vie.
Parfait.
La première affaire sur laquelle j'attire votre attention, c'est les petites remarques assassines.
Paul Lévesque, c'est quoi une remarque assassine?
C'est les complimardes.
Complimardes.
Non, mais c'est... Tu sais, c'est la petite remarque qui...
Ça te fait bien le poids que t'as perdu. T'en reste encore beaucoup, là, mais ça te fait bien le poids que t'as perdu.
C'est une petite remarque, je vais te dire une affaire.
Ça en est une pas pire grosse.
Tu sais, c'est le genre d'affaire qui donne rien de positif.
Ouais, je comprends.
Que t'as dit juste parce que tu voulais te soulager de l'ado qui t'a envoyé chier le matin. La petite remarque que t'as faite parce qu'elle te fait juste du bien. Parce que t'es jaloux de l'autre. Mm. Parce que l'autre... Tu comprends? Tu sais, la petite remarque où tu dis... ça vous est tout déjà arrivé où tu t'es dit... C'est-tu fin ou ça ne l'est pas? Moi, même, je le dis à haute voix des fois.
Ou c'est-tu une blague ou c'est plus une blague?
C'est plus une... Jusqu'où? Parce que je trouve qu'actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent sous le sceau de l'humour.
Ouais. Mm.
C'était juste une farce. Mais tu sais, c'était juste une farce, des fois...
Et poussée, là.
Bon, des fois, la personne n'est pas dans sa belle journée non plus. Là. Elle a peut-être vécu des trucs, là. Mais je comprends ce que tu veux dire. Les petites remarques assassines. Exemple, quand mon enfant dit « Non, je suis sûr, papa, que tu m'as adopté. » Puis je dis toujours « Si je t'avais adopté, c'est pas toi que j'aurais choisi. » Là, ça le tanne un peu.
Oui, mais là, il n'a pas pris ça de nulle part. Quand on pratique notre enfant à dire à sa grand-mère qu'il a été adopté...
Oui.
Hein? Tu
sais? Ouais.
C'est ça.
Il y a ça.
Mais les petites remarques, là, c'est parce qu'on finit par devenir dans... C'est pas grave. On s'habitue jusqu'à un certain point. Puis un moment donné, on se demande pourquoi on est tendu par rapport à une personne. On se dit... Ah, lui, là, elle, là, ça va finir par exploser. Tu sais, des fois, il y a quelqu'un qui est devant toi puis qui explose, tu te dis, ben voyons donc, qu'est-ce qu'il a mangé un matin? Mais c'est peut-être la petite remarque de trop.
Mm.
Tu comprends? C'est les affaires qui, au quotidien, finissent par te faire sentir tout croche. Puis cette personne-là, il contribue. Puis les petites remarques, les petites critiques, les petits... Je trouve qu'on est très habité par ça. On n'est pas habité beaucoup par... La gentillesse, je vous l'ai dit, j'étais dans l'ascenseur il y a quelques semaines, j'ai juste dit à quelqu'un qui sentait bon, c'est à vous autres, je l'ai dit?
Ça me dit rien.
Non, je me suis peut-être retenue, des fois, je regarde Yannick, puis je me dis, il va-tu en profiter? Ouais. Fait que
tu m'as jamais dit ça, moi, en tout cas.
Je suis dans l'ascenseur avec un monsieur, puis il sent bon. Et je lui dis, puis tu sais, moi, je suis assez généreuse du compliment, là. Je lui ai juste dit, vous sentez bon. Puis il m'a dit, je suis déjà pris.
Il a dit ça?
Il a dit ça! Je suis déjà pris. Hey, tu sais, j'en suis pas revenu. Là, j'ai regardé, ça tombe bien, moi aussi. Puis là, on s'est plus reparlé. Et tu comprends? Même les choses gentilles, maintenant, sont perçues comme, tu sais, elle veut quoi?
Ouais.
Pourquoi il dit une affaire
comme
de même?
Comme s'il n'y avait plus de gratuité possible.
Oui. Hein? Puis on dirait qu'aujourd'hui, on est en retenue. Je pense que le MeToo n'a pas aidé. Les messieurs se retiennent beaucoup par rapport aux compliments. On a tout mélangé. On a mélangé ce qui peut être dit puis qui fait du bien puis qui est... Tu sais, si tu me dis que je suis belle le matin, je penserai pas que tu me crouses, là. Parce que pour crouser quelqu'un, ça prend un ton, ça prend une attitude, ça prend... Tu comprends? Puis je trouve que... Je sais pas... Puis là, on verse dans le compliment parce que je pense que le contraire des critiques complimardes, c'est d'être juste une petite remarque gentille, comment ça fait différent dans le ton de la journée. Puis c'est pas cucu, ça se perd, on dirait. On devient suspicieux, on se pose des questions.
Pourquoi il me dit ça? C'est-tu de la manipulation?
Ou celui qui va dire, hey, je sais pas s'il l'a mal pris. Tu sais, éminemment, le monsieur pensait que je le séduisais, là. Mais en tout cas, il est...
Ouais, tu te dis, faut-tu que je me justifie rendu là ou faut pas? Tu sais, ouais, je comprends totalement ce que tu veux dire. Puis j'aime le fait que tu dises qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui passent sous le couvert de l'humour parce que j'ai le sentiment qu'on se permet d'être plus franc, de communiquer, mais on le fait pas de la bonne façon.
Marie-Pierre dit, j'ai appris que si c'est pas quelque chose qui se change en 30 secondes, tu dois te la fermer. Elle, elle dit, ferme ta gueule. Une graine dans les dents, tu le dis. Cheveux laids, t'en parles pas, tu fermes ta gueule. Poids, t'en parles pas, tu fermes ta gueule. Ah, c'est un bon truc.
Mais c'est un très bon point, je
trouve. Ben oui, puis juste pour te dire comment, je m'en pas regardé sur ma feuille qu'est-ce qui était marqué. Ferme ta gueule. C'est marqué tel quel, tu le vois sur ma feuille.
Ouais. Tourne ta langue cette fois avant de parler.
Quand c'est pas utile, quand ça va rien donner, c'est un peu, je rejoins ça.
Ouais.
Quand, tu sais, fais juste, si c'est pas nécessaire, ça sera pas utile, puis au contraire, ça risque, c'est ça qui provoque les tensions. Puis je remarque que plus on est dans l'intimité avec quelqu'un, plus on est à risque de le faire. T'sais, on dirait, Paul, on dirait que c'est l'inverse. Non, on dirait que tu es moins gêné.
Il n'y a plus de barrière.
Tu n'as plus de barrière. Puis à un moment donné, tu t'adresses à l'autre. Puis des fois, on se dit, pourquoi il y a de la tension? Là, on parle du couple, mais ça pourrait être ailleurs. Mais plus on est dans l'intimité, ou plus on connaît quelqu'un, même au milieu du travail, bien des fois, on est plus dans... On s'en permet. On s'en permet du trop.
Bien, y a-t-il une prise pour acquis aussi? C'est une prise pour acquis que... Ah, bon. Ben non, mais elle va le savoir que c'est une blague. Voyons donc, tu sais. Tu te permets d'en dire un peu plus, sachant que la personne va comprendre. Et je pense que souvent, il y a un irritant qui part de là aussi, surtout quand t'es proche, comme tu dis, là. C'est parce que c'est dur de casser l'autre. Tu veux pas péter le mood, mais à un moment donné, ça peut être lourd, tu sais.
Oui, puis c'est une farce, vient souvent après la réaction de l'autre. Parce que l'autre a réagi fortement. Ben non, c'était une blague. T'sais, c'est peut-être pas un bon système de défense. Parce qu'une fois que l'autre a été atteint, éminemment, c'était pas une blague, là, tu sais.
Ces tensions-là viennent-tu juste de commentaires ou des fois, ça peut être des affaires de traits de personnalité?
Il y a des gens qui sont plus... On appelait à l'époque soupe au lait. Je sais pas si c'est encore un indicatif qui peut nous apprendre quelque chose. Soupe au lait veut dire une petite tolérance. Il y a des gens qui ont des petites tolérances sociales. Et ce qu'on remarque, c'est plus tu as une estime de soi qui est faible, plus tu es à risque d'être soupe au lait. Parce que tu prends les choses perso, tu comprends?
Tout t'atteint.
Oui. Okay. Tout t'atteint. Alors que quand tu as confiance, tu sais, tu auras beau me dire ce que tu voudras, mon système de défense est bien assiselé, mais aussi parce que je me mets pas en doute. Quand tu reçois une critique ou un commentaire poche, si tu n'as pas confiance en toi, tu vas nécessairement te remettre en doute. Alors que si tu as confiance, c'est bien avec toi-même, tu peux accueillir le commentaire, mais tu ne seras pas nécessairement perturbé. Tu remarqueras que quand tu es perturbé, c'est parce que tu as toi-même un doute par rapport à ça. Ou tu as vécu quelque chose qui te ramène où tu ne veux pas. Tu auras beau me dire, puis je pense Yannick, là, ça fait 10 ans qu'on se connaît, je ne sais plus.
Ça fait plus que ça.
Plus que ça, Yannick.
2011.
Tu comptes les années, ben ça me touche. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup d'années.
C'était un soir d'automne.
Ben, tu sais, Yannick...
Il était habillé en blanc.
Ah, mais je me rappelle, tu faisais un remplacement.
Oui.
Puis avant le remplacement, tu avais dit, je suis obligée de la prendre, là. Je la connais pas, je le sais pas.
Ouais.
Tu avais dit ça.
Eh oui.
Il y a une mère.
C'est ton genre.
Mais ben, tu sais, il y a de la misère à faire entrer du monde nouveau dans sa vie. Ouais. Fait que là, c'est comme une petite bête sauvage. Mais une fois que tu es dans sa vie, c'est pour toujours, à moins que tu y fasses du mal beaucoup. Mais puis il avait dit ça, puis l'autre personne avait dit, tu vois, ça a été un coup de cœur. Puis ça a été...
J'ai demandé de m'adopter.
Ouais.
C'est vrai, il me l'a dit assez rapidement, ça, quand tu m'as parlé de toi la première fois que tu étais sa mère adoptive.
Ah, il a dit mère.
Elle ne paye pas pension, bien. Mais oui, parce que des fois, c'est compliqué. Puis tu sais, nous, avec le métier qu'on fait, on n'a pas le choix d'être un peu des bouts d'entrain, puis s'achaler une fois de temps en temps, jaser, puis amener d'autres sujets. Tu sais, c'est dur. Des fois, il y a de l'atmosphère de franche camaraderie dans une chambre d'hockey.
Oui.
Tu sais, tout le monde s'agace, là. Ben, hey, tu l'as raté encore comme celle-là d'hier, puis celle-là d'avant-hier, puis l'autre d'avant-hier.
Ben là, tu parles de discernement.
Arrange-toi pour scorer avec ta blonde en soir. On passe notre temps à se chaler. Fait que c'est dur des fois de voir que, comme j'ai dit à Audrey tantôt dans un autre contexte, c'est que tu ne sais pas la personne dans sa journée, qu'est-ce qu'elle a vécu. Puis là, tu arrives le soir, tu agis exactement comme au dernier match, tu lui dis à peu près 2-3 mardes, puis finalement, là, celle-là, ça passe pas. Là. C'est dur de gager des fois.
Absolument. Mais, c'est pour ça qu'on appelle ça le discernement. Plus tu as du discernement, moins tu te mets dans le trouble. Parce que avoir du discernement, ça veut dire juger. Juger si c'est le bon moment. Juger si c'est le bon timing. C'est ça qui fait que, tu sais, on est tous dans la chambre de hockey, on se taquine toutes. Ben écoute, on est dans le discernement de dire on est au bon endroit, de la bonne façon, au bon moment. Puis, tu sais, si tu l'as échappé, ça se peut que tu l'échappes. Au lieu de dire que c'est une farce, peut-être t'excuser, c'est une bonne idée. Mm-hmm. Juste dire, oups,
c'est pas une bonne journée.
C'était pas une bonne journée. J'ai mal évalué la situation. écoute, c'est pas ce que je voulais. Puis, sais-tu ce que je fais, moi, à la fin de chaque conférence? Je fais toujours ça. Je dis tout le temps, je vais pas vous laisser en pire état que je vous ai pris. Si par mes propos, j'aurais blessé quelqu'un sans le savoir, n'hésitez pas à venir me voir, parce que je connais pas vos vies respectives. Et des fois, tu peux dire quelque chose qui est mal perçu, mal interprété, parce que tu arrives avec ton filtre. Fait que, il y a ça aussi. Pour éviter les tensions, on peut-tu juste, des fois, avouer qu'on l'a échappé? Tu sais, on n'est pas obligé de se mettre la tête sur le bûcher. Mais pour éviter les tensions, c'est aussi une façon, au lieu d'être dans l'escalade, puis de résister, puis de dire « Non, non, ce que j'ai dit, c'était pas si pire, puis voyons donc. » Juste de dire « Ben, je suis désolée, peut-être que tu l'as mal pris, puis où t'es là, ben, peut-être que t'avais des choses que je comprenais pas. » Tu sais, je vais faire attention.
Puis à l'inverse, quand tu es la personne qui est sur le point d'exploser ou qui reçoit ces commentaires-là, comment tu devrais agir ou réagir? Parce que j'ai le sentiment qu'il y a ça aussi, tu sais. Il n'y a personne qui a envie de se rendre à faire un fou de lui parce que de nulle part, cette journée-là, la coche se pète parce que c'est trop.
Quand la personne le reçoit, en fait, quand c'est elle qui le reçoit, ben, ça dépend toujours de ton état émotif.
Oui, mais toi, tu me l'as déjà dit. Ça, je fais le pas aujourd'hui. Fait que ça me donne un indice comme quoi c'est pas le temps de t'achaler avec ta coupe de cheveux à 400$.
mais ça, c'est vrai que c'est un point. Moi, c'est rendu... Tu sais, on travaille tellement... puis c'est de même dans beaucoup de corps d'emploi, mais on travaille tellement proche. Tu sais, je vois plus Yann, Denis Pivéro aussi l'après-midi que mon chum, ma famille, mon entourage, mes amis. Fait que tu deviens, veux pas, proche, puis tu c'est ça, t'sais, tu t'agaces, tu te fais du fun, ça fait partie de notre job. Puis effectivement, moi, c'est rendu que quand il y a une journée de merde, je le dis comme en partant. Souvent, là, je vais quitter le studio puis le show grand sourire. Mais tu sais, quand tu te sens plus fragile, peut-être, oui, que ça vaut la peine de le dire, mais en même temps, Yann, tu sais, tu peux pas te promener avec une pancarte dans le front en arrivant au bureau le matin. Je crierais pas, mettons, à qui veut bien l'entendre dans la station. Et aujourd'hui, ça fait le pas, tu sais. D'un coup, quelqu'un se serrait.
Ouais, mais tu me l'as dit. Moi, t'es rentré en studio, t'as dit, Yann, me semble que je pense que c'est hier ou avant-hier. Tu me dis, Yann, me semble que je fais le pas aujourd'hui. Ça m'envoie un indice de pas t'écœurer avec tes cheveux.
Absolument. Mais ça, le plus, c'est que ça fait partie d'une de mes recommandations.
T'es fait arnaquer.
Être capable de prévenir.
Je vais chier.
Être capable de prévenir en nommant nos états d'âme. Encore une fois, on ne prend pas une espèce de micro pour avertir le monde entier. Mais quand tu préviens, les gens s'ajustent. Moi, là, je suis toujours incroyablement surprise. Puis, tu sais, des fois, je vais faire, même avec les petits, même avec les enfants, des fois, j'ai affaire à un groupe, puis c'est déjà arrivé que j'avais quelqu'un que j'aimais à l'hôpital, tout ça. Puis, tu sais, je suis arrivée en disant, aujourd'hui, mon petit cœur est plus gros. Là, je parlais à des enfants. Mon petit cœur est plus gros. On va prendre soin les uns des autres. C'est fou, juste ça. T'es pas obligé de nommer que ta grand-mère est à l'hôpital en train de mourir, tu sais. Quand on prévient les autres, curieusement, au lieu d'aller te chercher parce qu'ils sentent qu'il se passe quelque chose, puis dans la vie, on a toujours l'impression que c'est de notre faute, naturellement. Oh, Audrey, elle file pas, elle me traite pas comme d'habitude. Peut-être que j'ai fait quelque chose. Fait que tu enlèves cette possibilité-là. Donc, tu viens de calmer, justement, chez l'autre, la possibilité d'aller valider, aller vérifier, aller te chercher.
L'autre jour, j'écoutais un podcast familial que je trouvais intéressant parce que les conjoints donnaient leur version des faits sur des conflits qui pouvaient arriver une fois de temps en temps. Puis c'était le cas d'une femme qui avait 7 enfants. Puis avec son conjoint, ils ont décidé qu'elle allait être femme à la maison. Puis c'est quelque chose qu'elle voulait faire, c'est de rester avec les enfants le plus longtemps possible. Et lui, au départ, a accepté. Puis il travaille, puis ils font un bon salaire. Je pense que il avait mentionné son salaire, c'est autour de 250-300 000 $. Fait qu'une famille est capable de vivre avec ça. Puis ils ont 7 enfants. Puis lui, il disait que quand il part le matin, ça va bien, il donne un bec à sa conjointe, puis après ça, il arrive le soir, puis il redonne un bec à sa conjointe, puis il a travaillé pendant la journée, il a travaillé fort, ramène de l'argent à la maison, puis il comprenait pas pourquoi sa femme, elle était pas tout le temps comme super heureuse, parce que, coudonc, elle est tout le temps à la maison, tu sais, elle fait pas grand-chose. C'est ce qu'il pensait. Puis elle, de dire, mais t'es peu, moi, ma journée commence à 5 heures. Toi, tu te lèves à 7 heures. Ma journée commence à 5 heures. Je commence à planifier les déjeuners. Je commence à planifier les lunchs des enfants. Je commence à planifier le dîner parce que les enfants, il y en a certains qui restaient encore à la maison puis qui n'allaient pas à l'école. Je planifie aussi le souper. Faut que j'aille faire l'épicerie. Faut que je fasse le lavage. Faut que je nettoie la maison. Faut que je fasse les chambres. Puis lui, il avait l'air d'un gars qui était comme pas au courant de ça.
Elle n'arrête pas.
C'est weird. Puis je pense que, tu sais, moi, je pense que si j'avais une conjointe à la maison, je serais capable de faire la part des choses parce que quand je fais les toilettes puis je nettoie la maison, je me rends compte que c'est long faire ça. Mais il n'y avait pas conscience de ça. Mm. Qu'elle, toute la journée, elle travaillait sinon plus fort que lui physiquement, tu sais. Alors que lui, il travaillait au bureau, puis après ça, il arrivait à la maison, puis il voulait que sa blonde soit disponible pour lui, toute souriante, toute fraîche, avec les cheveux tout bien coiffés.
Puis au-delà de ça, tu sais, elle est toujours dans le même environnement. Lui se prépare pour le bureau, il revient relaxer à la maison. Elle, la maison devient son environnement
mais
de travail.
Mais le gars avait le syndrome du bébé singe. Là. Ouais. Fait que là, lui, là, bébé singe, là, quand ça fait pas son affaire, il se cache les yeux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien d'autre qui existe quand il se cache les yeux. Fait qu'il sortait de la maison, il voyait pas rien de la journée, de ce qui se passait à la maison. Puis il revenait le soir, il enlevait ses mains devant ses yeux. Puis là, il voyait sa femme qui avait de l'air maganée, puis qui était pas tout à fait de bonne humeur, puis avait de l'air fatiguée. Puis là, voyons, comment ça, il y a encore des dodos sur le divan, tu sais. Alors qu'elle avait tout fait de A jusqu'à Z.
Ça devient un gros irritant.
Juste le fait de la faire parler, elle, ça lui a fait prendre conscience à lui qu'elle avait une vie pas mal plus hardcore que la sienne. Là.
C'est fou pareil. Hein?
Ben oui.
Mais peut-être qu'il l'a écouté pour la première fois.
Ben oui, le podcast sert à ça.
OK, c'est OK. Parce que je peux pas croire qu'avec 7 enfants, il n'y avait pas eu un wake-up call en cours de route. Tu sais, il arrive comme quelqu'un qui n'a jamais vécu dans cette famille-là.
Mais Paul, quand ça va bien, t'as l'impression que ça va bien?
Ben, peut-être qu'il manquait un petit peu d'empathie, là. Parce que à 7 enfants... Là,
elle aussi aurait dû y dire. Ben, avant de se présenter dans un podcast.
Mais, ben, c'est ça. Ils ont peut-être essayé de communiquer, puis ils sont pas écoutés ni un ni l'autre. Ou en tout cas, parce qu'après 7 enfants, s'il n'était pas conscient de ce que c'est engageant comme job...
Hey, deux, c'est de la
il
job,
était où, là, tu sais, tout ce temps-là? Fait que je me dis, t'as raison, des fois... ignorer ou faire semblant que ça n'existe pas, c'est une bonne façon de se déculpabiliser. Là,
ouais. Puis savoir ce que l'autre fait aussi. Là, au même titre qu'Audrey, quand elle rentre dans la pièce et elle dit « je file pas », tu sais qu'elle n'a pas eu une belle journée, fait que t'es pas obligé de l'achaler. Là. Fait que oui, on a intérêt à se parler, que ce soit en amitié ou encore entre collègues ou encore en amour. Mais moi, ça m'avait flabbergasté de voir que le gars, il s'est rendu jusqu'au podcast pour découvrir que sa femme travaillait 10 fois plus fort que lui. Là.
Mais ça m'interroge, ça. Ça m'interroge parce qu'il est là le week-end. Je
pense qu'il fait le week-end. Il va au golf. Il a travaillé fort
ben,
toute
la semaine.
Il
n'est pas là. Mais il était où
mais
tout ce temps-là?
Il a travaillé fort toute la semaine. Lui, il voit juste sa... il voyait du moins juste sa vision des choses. Le bébé singe, je pense à ça. Lui, là,
oui,
il sort, il se cache les yeux, il n'y a rien qui existe.
Pas.
Il revient.
Je vais prendre l'exemple de chez nous. Là,
ouais, prends exemple sur ton job. Ouais.
Non, mais de mes parents.
Qu'est-ce qu'il a fait?
Ah, mais là, on est à une autre époque. Là.
Oui, ben, oui, mais tu vas comprendre où je m'en vais. Ma mère était archéologue de métier, puis quand elle est tombée enceinte de moi, elle a décidé de s'ouvrir une garderie en milieu familial parce que son métier la faisait voyager beaucoup, celui de mon père aussi. Fait qu'il y avait comme un des deux qui devait se placer, tu comprends, pour qu'on soit élevé, finalement. Ma mère a eu pendant 25 ans une garderie en milieu familial. Puis là, je parle de ma perception d'enfant. Là. Mon père, lui, travaillait beaucoup à l'extérieur, des énormes journées. Lui, il partait à comme 3 heures le matin pour aller s'entraîner. Il était à 5 heures au bureau, revenait à 7 heures le soir. Il chômait pas non plus, tu sais. Mais je sentais des fois qu'il y avait peut-être la perception que ma mère, c'était facile à travailler à la maison. Voyons, t'es dans tes affaires, tu surveilles les enfants. Il comprenait pas exactement probablement ce qu'était le métier d'éducatrice en garderie.
Mais est-ce qu'il s'y était intéressé?
Bonne question. Ça, écoute, moi, je te parle de perception d'enfant.
Oui.
Mais je sentais des fois qu'il n'y avait pas sa réalité et elle n'avait pas la sienne non plus.
Exact.
Fait que c'est comme si c'était deux personnes qui ne se voyaient pas, ils ne s'entendaient pas quand venait le temps d'en parler. Puis si je rapporte ça à une simple... Je vais ramener ça au ménage. Moi mon chum, quand on était ensemble au début, là, la seule affaire sur laquelle on s'obstinait constamment, c'était le ménage. Parce que mon chum, c'est comme si tout se fait magiquement. Il n'y a jamais de poussière qui s'accumule nulle part, tu comprends? Ça se fait tout seul, il n'y a pas de problème. Les plaintes en haut n'ont jamais de poussière.
Ouais, mais il arrive, c'est propre.
Dans sa tête, ça ne s'accumule pas là, parce qu'il ne le sait pas. Puis c'est sûr que si tu te mets à tout nommer, ben oui, à un moment donné, probablement que l'autre s'en rend compte, mais... Moi, c'était tout le temps, voyons, je me tape le ménage, j'arrête pas de me taper tout. Lui, ça le mettait en maudit parce que c'est pas comme s'il y a grand chose à faire, la vaisselle puis le plancher, calme-toi. Puis, tu sais, tu comprends, des fois, t'es juste dans une chambre d'écho parce que tu ne sais pas où t'as pas été élevé de la même manière. J'ai l'impression que t'as pas les mêmes visions, peut-être.
Mais je pense, tu sais, je riais du gars, là, tu sais, avec l'histoire de je sors de la maison, je me bande les yeux, il se passe plus rien à la maison, puis je reviens le soir. Mais je pense qu'on est on est un peu tous comme ça.
À des niveaux et des sujets différents. Mm.
Tu sais, le stress que toi, tu peux accumuler à la job, tu sais, ou le stress que toi, tu peux accumuler quand tu fais tes conférences, quand tu rencontres tes clients et tout ça, tu sais, les gens qui partagent ta vie ou même les collègues, tu sais, moi, je me considère comme un collègue parce que tu viens nous voir une fois de temps en temps, tu sais, je ne sais pas ce que tu peux vivre comme stress, comme angoisse, tu sais. T'as aussi longtemps que toi, tu ne le dis pas. Pas parce que je fais de l'aveuglement volontaire, je me dis, crime, Paul, elle doit en vivre des affaires des fois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se confient à toi. Tu vis avec énormément de secrets, mais tu sais, moi, quand je te vois comme ça, tu es tout le temps souriante. Hein, Paul, ça va bien. Mm.
Mais tu as tellement raison, il y a toute une question de perception aussi. Ouais. Tout à fait. Puis, tu sais, il y avait un dicton qui disait, attends de marcher dans les souliers de l'autre avant de le juger, ou attends de. Parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas toujours la hauteur de ce que l'autre vit parce qu'il ne le démontre pas ou tu sais.
Mais c'est touché parce que tu veux pas non plus être la personne qui se plaint. Comprends-tu ce que je veux dire? Là, moi, je le dis à Yann parce qu'on est plus proches, on travaille de proches ensemble, puis je me permets de dire, mettons, ah, journée de merde aujourd'hui, a mal commencé. Mais jamais je me promènerais dans les corridors en disant ça. Imagine, la fille, trois fois semaine, ça file pas parce qu'il y a un bout de rough, puis elle passe son temps à dire que ça va pas. T'sais, j'ai comme l'impression que ça aussi, des fois, les gens ont comme peur de déranger ou ils se disent, bon, ça sert à rien que je l'exprime. T'sais.
Oui. Oui, puis ça me donne rien que j'exprime avec cette personne-là. Parce que ça prend deux éléments. Celui qui le dit, puis celui qui l'accueille. T'as beau le dire, si l'autre l'accueille pas, tu vas finir par plus le dire.
Oui, puis mettons qu'on fait un peu de psychologie, là. Quand Audrey dit que des fois, elle peut se sentir mal de dire qu'elle va pas bien, c'est-tu parce qu'on a comme une tendance à vivre dans les yeux des gens? Tu sais, moi, je considère qu'à partir du moment où tu choisis de ne plus vivre dans le regard des gens, mais tu choisis pour toi, pour les gens qui t'entourent, pour ta famille et tout ça, puis tu prends des décisions qui, parfois, peuvent être jugées par les autres, mais tu t'en fous, ça, je considère que c'est une liberté. T'sais, en vieillissant, moi, j'ai réussi à me rendre là. J'ai pas encore tout réussi à guérir, mais il y a bien des affaires que je vais faire que je sais que ça plaira pas à des gens qui sont autour de moi, mais je sais que je le fais pour le bien, pour les biens de mes enfants, pour mon bien à moi, pour le bien de mes amis qui sont autour de moi. Mais j'ai cessé de vivre dans le regard des gens. Est-ce que quand on a peur de dire à nos amis, hey, on arrive à la job, hey, ça va pas aujourd'hui, c'est parce qu'on a peur de ce qu'ils peuvent penser pour nous, sur nous?
Moi, c'est un gros oui, je sais pas toi, Paul.
Ouais.
Ben, je pense que.
C'est beau tes cheveux, Audrey.
Je te crie même plus.
Non, mais essaye au moins. Qu'est-ce que tu veux? Ben, moi, je pense que vieillir, il faut qu'il y ait quelque chose de bon. C'est qu'on a peut-être plus envie d'être aimé à tout prix, mais on a envie d'être respecté. Moi, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé ma carrière, ou peu importe dans ma vie, moi, je voulais être aimée, envers et contre tous. Aujourd'hui, si tu m'aimes, c'est un beau bonus, mais je veux être respectée et ça passera pas. Donc, tu as le droit de ne pas m'aimer, mais tu n'as pas le droit de ne pas me respecter.
Ouais, je pense que le respect, il doit y avoir du respect dans l'amour. Là. C'est prioritaire.
Oui, mais il peut y avoir du respect sans amour.
Mm.
Oui. Ben oui, c'est pas tout le monde qui m'aime, là, mais tu sais, même si tu m'aimes pas, ben, tu dois me respecter pareil.
Mmh. J'osais avec deux petits bonhommes qui avaient rencontré un nouveau beau-père, puis ils me disaient, tu sais, papa, on t'aime plus que lui. Hein? Puis là, j'avais dit, tu sais, les gars, je vous demande pas de l'aimer, ça, c'est vous qui allez décider à savoir. Là, j'ai dit que c'était mes enfants, fait que je peux continuer.
Oui, oui, absolument.
Mon mensonge s'est estompé. fait que là, j'ai dit, les gars, vous êtes pas. Je peux pas vous dire aimez-le absolument, mais vous devez absolument le respecter si lui vous respecte.
Vrai.
Puis après ça, ben, ils me l'ont dit, papa, on l'aime beaucoup, tu sais, puis il fait des activités avec nous autres, puis il nous apprécie. Moi, en tant que père, je veux dire, il n'y a rien de mieux qu'un beau-père comme ça, tu sais. Mais au départ, les enfants avaient peur de moi, ce que je pouvais penser d'eux s'ils aimaient leur nouveau beau-père. Fait qu'ils m'en ont parlé, puis ça a été, vous n'êtes pas obligé d'aimer les gens. Par contre, vous devez les respecter si ces gens-là vous respectent. Puis après ça, l'amour est embarqué.
Mais t'sais. Ça, je trouve ça tellement intéressant. Tu sais, Paul, t'es reconnu justement pour être, mettons, super pimpante, de bonne humeur tout le temps, pleine d'amour. Tu sais, je pense que des fois, effectivement, il peut y avoir une peur de décevoir les gens parce que tout d'un coup, cette journée-là, tu files pas si pimpante que ça, puis tu files pas pleine d'amour à ce point-là. Mais, en fait, je te prends toi en exemple, mais je vais me prendre moi en exemple, dans mesure où je pense que c'est un peu ça. Des fois, ça m'a frappé ce que Yann a dit. Parce que des fois, je me dis, hey, mon Dieu, mettons les gens à job me connaissent comme la fille de bonne humeur qui rit fort, qui. Hey, s'il fallait que je file pas.
Mais ça s'appelle l'authenticité. Tu sais, malgré le fait que je pense que j'ai peut-être le bonheur facile, quand vous me demandez si ça va bien, j'ai toujours répondu la vraie réponse.
Ouais.
Puis il y a des fois que je vous ai dit non, ça va pas. Je vous l'ai déjà dit.
Mm-hmm. Ben, tu me l'as déjà dit.
Oui, je c'est sûr que j'ai pas envie de tout dire à tout le monde. On est quand même à radio aussi, là. Mais j'essaie d'être le plus authentique possible. Puis tu vois, justement, il y a deux jours, j'étais en consultation privée. Quelqu'un m'a demandé si ça allait bien, parce que c'est rare qu'il me le demande, hein. Je veux dire, c'est plus moi qui leur demande comment ça va, puis on enclenche. C'est assez rare qu'ils vont dire « Attends un petit peu, Paul, comment tu vas? » Il y a des clients qui font ça, des fois, j'en reviens pas, puis ça me touche beaucoup. Ils vont me dire « Comment tu vas? » J'étais grippée jusqu'à là. J'ai dit « Ça va pas ce matin au niveau de mon corps, mais ma tête est toute là. » Mais je pense que d'être authentique, ça t'aide aussi à pas jouer de game, à juste être bien au moment où tu es là. Puis c'est peut-être un des secrets. Puis être authentique, ça veut pas dire tout dire, je suis pas obligée de tout te dire, mais d'être authentique. Puis est-ce que les gens ont toujours envie de l'entendre? T'sais, souvent, les gens vont dire « Paul, prends soin de toi. Tu prends tellement soin des autres. » Jusqu'au jour où ça les touche pas, j'ai remarqué ça. Ils vont dire « Paul, prends soin des autres. » Mais le jour où je vais dire non à quelqu'un parce que je dois prendre soin de moi...
Son vrai visage.
Bien, ils prendront toujours... ils prendront pas... Tant que ça les touche pas, c'est « Prends soin de toi, mais il faut pas que ça me touche.
Ouais. »
Tu sais? Fait que tu as à travailler là-dessus.
C'est hypocrite hein, quand on y pense.
Bien, c'est qu'en fait... chacun travaille à son bien-être. Puis quand tu vas pas bien, tu sais, quand tu es malade, tellement malade qu'un médecin te dit oui, tu te préoccupes pas si ce médecin-là va bien ou pas.
Mm-hmm. Mm-hmm. Est-ce que, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs degrés d'empathie. Là. Il y a des gens qui sont très, très, très empathiques. Il y a des gens qui sont moyennement empathiques, puis il y en a qui le sont un peu. Mais ça existe-tu des gens démunis d'empathie?
Oui.
Que ce soit dans notre famille, au travail, dans nos amitiés?
Oui, oh, oui. Il y en a qui peuvent être que sympathiques.
Ouais.
Tu comprends? Sympathique veut dire « Ah oui, c'est bien beau, je suis gentil, tout ça, mais je me mets pas à la place de l'autre. » Se mettre à la place de l'autre, c'est être empathique. C'est prendre le temps de comprendre qu'est-ce que toi, tu peux avoir comme impact sur l'autre, de comprendre pourquoi il réagit, qu'est-ce qu'il y a derrière. Puis si on faisait tout ça, je pense qu'il n'y aurait même plus de guerre. Parce qu'on serait capable de voir l'impact que ça a chez l'autre.
Oui, mais là, il y a une guerre à soir à 20h en passant.
Canada-États-Unis. Oui. Ouais. mais
parce que des fois, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont très peu axés vers d'autres personnes là, sur le malheur. Ou des fois, si ça les touche vraiment eux, là, ils vont même verser des larmes devant toi. Tu vas dire, t'as ben ouais, je pensais même pas que t'étais un être humain, man. Mais quand c'est des autres, par exemple, des gens qui, la perte d'un proche, il est arrivé une tragédie, ils sont pas capables de ressentir quelque chose si ça les touche pas, eux.
Mm.
C'est weird, ça. Mais il y a une personne qui a fait partie de ma vie longtemps. Elle voyait une personne âgée dans un restaurant qui était seule à manger. Je sais pas, ça va être probablement moi, mais j'ai 90 ans, là, parce que j'aime ça aller déjeuner seule. Puis elle pleurait parce qu'elle se disait « Pauvre petit monsieur, il est seul, il n'y a personne avec jaser. Ouais. » Fait que j'avais une personne dans ma vie qui était hyper empathique à côté. Puis moi, de mon côté, c'est « Ben non, moi, je suis comme lui, là. J'aime ça être déjeuner de seul. Puis la dernière affaire que je veux, c'est qu'Audrey, exemple, vienne s'asseoir à côté de moi. « Salut, comment ça va? » Ben non, je veux juste manger, prendre mon café. Mais il y a des gens que tu me racontes qui sont complètement démunis d'empathie.
Oui.
Ça doit être triste, vivre ça, mais en même temps, ils ne le vivent pas. Ils ne sont pas tristes. Là.
Il y a toutes sortes de raisons. Des fois, c'est des gens qui ont dû mettre beaucoup de pleurs d'oignons parce qu'ils ont vécu une atrocité à l'enfance ou ils ont vécu des choses vraiment difficiles. Puis leur façon de se protéger, c'est de ne plus sentir. Parce que sentir...
De sentir de douleur.
Sentir. Parce que sentir émotivement, si tu gèles la bine parce que tu as vécu trop d'affaires difficiles, parce que ça peut être un mécanisme de protection, si tu gèles, il n'y a pas une congélation ou un dégel qui se fait de façon systématique. C'est si tu as décidé de te geler puis de ne plus ressentir pour ne pas souffrir, c'est que tu ne ressens plus par rapport aux autres non plus.
Tu as un je m'en foutisme qui s'installe.
Ben, tu ne ressens pas. Pour être empathique, il faut sentir. Il faut ressentir. Si tu ne ressens pas, c'est pas nécessairement parce que tu es une mauvaise personne. Ça peut être parce que tu as un exemple parmi tant d'autres. Ça peut être que tu as tellement souffert toi-même, petit, moyen ou grand, tout dépendant dans ta vie, qu'il y a des gens qui vont faire ça en peine d'amour, par exemple. Ils ont tellement souffert qu'ils ont décidé de geler le sentiment amoureux.
Parce que ça fait trop mal.
Ça fait trop mal. Donc, ils ne ressentiront plus de sentiment d'attachement amoureux ou de sentiments qui vont faire qu'ils vont être attirés par les autres. Comme si...
Ça se règle-tu, ça?
Ben, j'ose penser que quand tu prends les bons moyens, on peut dégeler les choses.
Ouais.
Moi, j'appelais ça, à l'époque, je l'appelle encore des fois le syndrome de la religieuse. Cherche pas ça sur Google, là, tu trouveras peut-être pas les bonnes affaires. Syndrome de la religieuse, c'est... Moi, j'ai eu à intervenir, puis c'est là qu'il m'est venu cette espèce de flash. Il y a eu beaucoup de défroc... Je sais pas comment appeler ça. Il y a pas eu un terme plus joli, je le sais pas.
Quitter la religion.
Quitter la religion, là, tu sais, il est plus plate, ça, là, mais quitter la religion. Et j'ai eu à intervenir avec des personnes qui avaient quitté la religion, qui étaient en couple, puis ça faisait des années qu'ils étaient en couple, puis qui n'étaient pas capables, par exemple, d'avoir d'orgasme, ou qui n'étaient pas capables...
Apostasie.
OK. Écoute, il est tellement cultivé. Ou qui n'était pas capable de...
Google, Paul.
De...
Bitch!
Hey, tu m'as cherché.
André, Audrey, toi aussi, t'as du vocabulaire.
Je trouve qu'André, ça va bien. Ton nouveau prénom. Donc, il y a des gens qui ont été apostasiés de l'Église.
Même physiquement, tu sais, ça peut aller jusqu'à physiquement.
Ils se sont mis en couple.
Ils sont comme bloqués.
Ouais.
C'est-à-dire, le temps qu'ils étaient en religion, là, ils se sont bloqués pour être sûrs de ne pas sentir rien qui montait, parce qu'ils n'avaient pas le droit de sentir rien qui montait.
Okay.
Puis ils ont tellement travaillé sur cette abnégation-là que quand ils sont arrivés en couple, puis moi, des fois, ben là, tu sais, ça fait des années de tout ça, fait que quand je les ai rencontrés, ils étaient déjà... avancé en âge, puis qui était en couple depuis des années, qui me disait « Pau, je suis pas capable. Dans ma tête, je suis capable, mais dans mon corps puis dans mon cœur, je suis pas capable. » Parce qu'ils ont passé des années à se geler. Et ça, j'appelle ça le syndrome de la religieuse. Donc, ça peut être sur toutes sortes de niveaux, mais tu as dû te geler pour te protéger. Et quand tu es gelé, tu ressens pas le négatif, mais tu sens plus le positif.
Ah, j'aime ça. C'est une conversation, j'adore ça. Il y a divers niveaux d'empathie. Là. Il y en a qui le sont à l'extrême, il y en a d'autres qui le sont très peu. Y a-tu des... Tu sais, moi, là, je vais te donner un exemple. Le petit bébé qui est venu avec nous autres, là,
oui.
Ça m'a fait fendre pour la journée au complet. Ça a gâché ma soirée parce que je ne pensais qu'à ça. Je cherchais les raisons pour lesquelles il y avait des enfants qui naissaient avec des maladies. Je filais vraiment pas. Mais je peux lire quelque chose qui s'est passé aux États-Unis, exemple, c'est très loin, puis ne ressentir absolument rien.
Ben, ça dépend de quel niveau tu es touché aussi.
C'est à proximité?
Ben, de la façon dont tu es touché, il y a des gens qui vont me dire, par exemple, « Paul, j'ai toujours été sympathique à la cause des enfants jusqu'au jour où j'en ai eu. Et quand je me suis mis à avoir des enfants, je suis devenue empathique parce que je me... Ce que je vis m'amène à être capable de me mettre facilement à la place de l'autre.
Est-ce qu'il faut nécessairement avoir souffert beaucoup, tu sais, des gens qui sont énormément empathiques? Est-ce que c'est des gens qui, pour la plupart, ont souffert beaucoup? Puis c'est comme un effet miroir qui se produit?
Ça peut. Des fois, c'est oui, des fois, c'est non. Et on peut se dire qu'on peut comprendre l'autre jusqu'à un certain point.
Parce que tu l'as vécu.
Parce que tu l'as vécu. Puis des fois, parce que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas te rendre aussi loin que la personne. C'est pour ça que des fois, moi, je demande aux gens, explique-moi pour que je comprenne. Explique-moi de ta façon à toi, de la façon dont tu l'as vécu. Parce que... Puis il y a une chose qui m'avait aussi frappée. Un jour, j'avais été postulée pour travailler avec... les gens qui sont en cure de désintoxication et qui ont besoin, bien sûr, de travailler au niveau de leur intériorité, tout ça. Et il m'avait dit, on passera même pas l'entrevue. Tu sais, t'as l'air le fun, t'as l'air cool, mais est-ce que tu t'as déjà consommé? Non. T'es consommé, de la coke, tout ça, j'ai jamais consommé ça. Il a dit, ben, tu seras pas bonne. Mais j'ai dit, je peux essayer? Non. Parce que pour atteindre le niveau... d'intervention qu'on veut, faut que ça vienne de l'intérieur. Et vous allez remarquer que quand vous avez vécu quelque chose et vous rencontrez quelqu'un qui a vécu la même chose, il y a comme une espèce de fraternité qui se fait.
Oui, une connexion.
Une connexion. Mmh. Parce que sans se parler, on comprend ce que l'autre a vécu. Il va avoir... Fait que ce qu'on a vécu peut nous geler, mais peut aussi nous ouvrir sur quelque chose qu'on avait... Tu peux juger jusqu'à temps que tu l'aies vécu. Tu sais, à un moment donné, tu juges combien... Je prends l'exemple des parents. Combien de parents, avant qu'ils deviennent, jugeaient, ben couche-les, puis il va arrêter de pleurer. Laisse-les pleurer.
Ouais.
Tu sais, tu faisais des commentaires jusqu'au jour où ça t'arrive, puis toi, ça fait 3 nuits que tu te lèves, puis tu as essayé plein d'affaires, puis que ça marche pas. Là, tu fais, OK, C'est pas si simple. Des fois, tu règles ça facilement dans ta tête jusqu'à temps que tu l'aies vécu. Tu fais « Oh, il y a beaucoup plus de ramifications qu'on pense. »
C'est facile de parler quand tu connais pas. Là, moi, je vais au restaurant puis je vois un enfant qui hurle avec son parent. Tu comprends? Je suis en train de refaire le monde dans ma tête puis me dire que moi, mais que j'ai aimé, ça sera pas de même. Attends,
bonne chance.
Attends, c'est ça. J'ai le sentiment que c'est tellement facile de se faire un monde parfait quand tu ne connais pas.
Ouais.
Il y a un auditeur qui demande « Paul, peut-on être trop empathique là, à t'écouter? » Je comprends que oui. J'imagine que cette personne-là recherche peut-être un peu plus d'informations.
Ces gens-là souffrent. Là. Les gens trop empathiques souffrent aussi. Là. Mm-hmm.
Oui, ben moi, je dirais que je suis peut-être comme monsieur. Moi, j'ai le piton collé de l'empathie, là, nuit et jour. Et je pense que ça a été éveillé. Puis il faut peut-être se demander d'où ça vient. Moi, je pense que j'avais déjà une... J'ai pas choisi ce travail-là pour rien. Mais à force d'être dans l'hypervigilance puis de me soucier des autres puis de prendre soin des autres, c'est comme si ce bouton-là ne se fermait jamais. La première chose... Moi, j'ai voulu longtemps être autrement, là, pour... parce que je finis par souffrir pour les autres.
Ben oui. T'accumules tout ça.
Ben, puis après ça, je me suis dit, pourquoi je fais de l'anxiété de performance par-dessus ça? Mm. Pourquoi je fais pas juste l'accepter pour commencer? Parce que ça a des beaux côtés aussi.
Ouais, parce que Paul a fait des... Je sais pas si elle l'avait déjà mentionné sur les ondes de boulevard, mais elle a fait des pactes de suicide avec des gens.
Oui.
Donc, c'est des pactes de non-suicide. Donc, il y a des gens qui vont la voir puis qui font un pacte avec Paul comme quoi ils mettront pas fin à leur vie tant qu'ils n'appelleront pas Paul.
Oui.
Fait que genre, vivre avec ça, c'est tough, là.
Mais voyons donc, Paul. Fait que toi, t'es disponible.
J'en ai toujours
24/7,
au moins. Ben, écoute, j'en ai toujours 7, 8, 9, 10. Toujours, là, j'en ai encore d'actifs. Là. Toujours. Je dors toujours avec mon téléphone cellulaire sur le bord de mon lit. Mon chum le sait. Que je sois à Noël, n'importe où, si ça sonne puis je reconnais, je vais répondre. Peu importe où je suis. Puis... C'est un mode de vie, hein?
Oui.
C'est un mode de vie. Quand tu comprends, des fois, les gens disent « Paul, tu vas te changer. Je vais mourir de même parce qu'il y a des choses de moi que je ne changerai pas. » Puis ce que j'ai envie de dire à monsieur, la première chose, c'est d'accepter qu'on est comme ça. Tu sais, il y a des mères Teresa dans la vie puis qu'on est comme ça. Maintenant, comment on fait pour se protéger? C'est peut-être d'être capable de mettre ses limites. Parce que c'est pas l'empathie le problème. C'est ce qu'elle nous amène à faire.
Mm.
Moi, de ressentir, c'est une chose. Mais ce que ça m'a amené à faire longtemps puis j'ai encore de la misère, c'est mettre mes limites. Puis dire non.
Ouais.
Dès que je sens quelqu'un... Tu sais, mon comportement de ce matin est révélateur aussi. Audrey, quand elle m'a envoyé son coucou, mon premier réflexe, c'était de...
C'est pas normal. C'est pas normal qu'elle m'a envoyé un coucou. Il se passe quelque
non,
chose.
Mais non,
faut
non,
que je
non.
me rende à
mon
station.
Mon réflexe, c'était de me libérer pour y aller. Je me suis même pas posé de questions.
Ouais.
Parce que, rapidement, je me suis dit, lequel est le plus... Lequel je dois choisir entre ce que je fais? J'étais en réunion, puis ils ont bien compris. Puis là...
Paul, il reste à peu près une minute. Tu m'allumes sur des choses concernant l'empathie parce qu'il y a... Je rentrerai pas dans les détails parce que ça a été médiatisé. Là. Il y a des articles de journaux là-dedans. Il y a un homme qui m'avait appelé à la radio puis il m'avait dit qu'il ne ressentait absolument plus rien de la douleur dans le monde. Puis il m'avait dit d'autres choses par la suite, puis c'est ce qui fait que ça avait fait le tour. Mais il était persuadé d'être un psychopathe alors que c'était probablement quelqu'un qui s'était gelé. Sur ses sentiments qu'il pouvait ressentir.
Oui.
Fait qu'il y a des gens qui nous écoutent peut-être qui ont l'impression d'être des psychopathes, mais sachez que vous n'en êtes pas, là.
Ben, y a un cran de plus, hein, le psychopathe, c'est qu'il prend plaisir à faire du mal aux autres. Ouais. On est dans une autre coche.
Exact. Lui, c'était juste qu'il ne ressentait plus rien de la douleur des autres autour. C'était juste gelé, comme tu as
dit. Oui, puis rappelez-vous que ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est pas nécessairement l'enfance qui t'a amené là. Il peut arriver quelque chose dans
Moi,
la
ça
vie.
Ça m'est arrivé.
Oui, hein?
Ça m'est arrivé l'an passé... J'ai comme vécu trois deuils en dedans d'un mois et demi. Trois personnes près de moi, dont un de nos collègues qui nous a quittés.
Ah,
puis il y a comme un moment avec l'accumulation où là, ça allait vite le travail. J'y pensais juste pas. Puis je pense qu'il y a un moment où par peur, par peur d'explosion un peu, j'ai un peu fermé la switch. Puis là, ben, je me suis mis à me faire dire par des proches, hey, t'es froide, on te reconnaît pas, il me semble que tu manques de vie. Puis c'est ce qui a entamé un certain processus à travers lequel je suis passée par la suite, mais c'est assez spécial comme sentiment. Puis t'as besoin en passant de quelqu'un. Là. Moi, la thérapie m'a énormément aidée parce que c'est un peu ça qui te dégèle pour aller chercher les bébites. Là.
On donne les clés, en fait, pour
ouvrir
les
Absolument.
Paul, je te remercierai jamais assez d'être avec nous autres une fois de temps en temps. C'est toujours très formateur, puis on apprend toujours plein de choses, puis on s'amuse aussi en
ça
même temps.
Ça passe trop vite.
Eh oui.
C'est un grand bonheur. Puis là, je pourrais ajouter que surveiller durant la semaine de relâche, Je pense que c'est jeudi, 16h30, mais je suis même pas... Et j'ai l'air fine, je suis même pas capable. Je suis à Radio-Québec. Il y a une émission pour les enfants qui s'appelle Luca et Léo. Donc, ben, je vais être en émission spéciale pour la relâche.
C'est bien le fun.
On te trouve sur paullévesque.net, paullévesque.net. Je rappelle aux gens que tu es éducatrice spécialisée. Tu es spécialiste du comportement humain. Donc, pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi, ben, ils peuvent aller sur ce site-là. Sinon, les gens peuvent me contacter sans problème sur Messenger. Puis, je les référerai à toi, cher ami. Un gros merci.
C'est un grand, grand bonheur.
Et merci encore de m'avoir accompagnée.
Ben, c'est comme si ça m'avait fait autant de bonheur et de plaisir. Ah. Oui.
Du 5 au 23 mars, procurez-vous un billet de loterie Heureux Gagnant de la Fondation du CHU de Québec au coût de 150 $. Seulement 3 000 billets qui sont disponibles et c'est 30 000 $ en prix par jour à gagner. Donc, ça peut être de l'épicerie, de l'essence, des crédits voyage, cinéma maison et beaucoup plus. Le tirage, c'est à chaque jour du 31 mars jusqu'au 4 avril. Tous les profits récoltés par la vente de billets seront entièrement consacrés au financement de projets innovants des 5 hôpitaux du CHU de Québec, Université Laval et de son centre de recherche. Donc, procurez-vous votre billet dès maintenant au fondationduchudequebec.org. On s'arrête et on vient tout de suite. Il est 11h16.
Avec Marceau et Audrey Pinchot.
11h23 minutes, c'est déjà la fin, mais il ne faut pas manquer ce soir, 20h. La Troisième Guerre mondiale. Le Canada contre les États-Unis. Donald Trump commence à nous achaler un peu ses réseaux sociaux.
Et qui est baveux, hein?
Ouais. Et si on gageait?
Si on gage rien, mais on va gagner.
Si on gagne, les États-Unis deviennent le Canada.
C'est trop dangereux. Je peux pas jouer à ça.
On retourne en élection parce que je veux pas Trudeau et je veux pas Trump non plus. Fait que, on prend les États-Unis, on devient l'Amérique.
Oui.
Mais on s'appelle le Canada, bien entendu, parce qu'on a battu les États-Unis
ouais,
ce soir.
Oui, c'est ça. Non, j'irai pas, là.
Dans le cas contraire, on dit, c'est une joke, là.
Oui, mais c'est ça, l'affaire, lui, il était assez débile pour penser que c'était pas une joke.
Aïe.
Ben, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai?
Aïe.
Yannick Marceau.
Commence pas à faire du shock jock ici. La classique annuelle, ça va être un gros match aussi. Ça prend place le 20 mars prochain au centre de glace Intact Assurance. La classique annuelle Boulevard. On fait ça pour une troisième année. Et c'est quoi la classique, en fait? C'est qu'on joue contre une équipe. Donc, si vous faites partie de la Ligue du Vieux Poil puis vous avez une équipe déjà de fait, puis ça vous tente de jouer contre des gars qui sont vraiment pas en shape puis qui jouent pas souvent ensemble.
Ils s'appellent les essoufflés. Là,
on s'appelle les essoufflés, mais on fait tout pour gagner. L'année passée, on a perdu contre les Boutons en feu, mais c'était organisé. Là. C'était pour leur faire plaisir.
Donc,
si vous voulez inscrire votre équipe à vous autres, c'est boulevard.fm, blvd.fm pour vous inscrire avant le 27 février. Puis on a hâte de revivre ce trip-là en gang. Parce qu'après ça, ben, on prend une petite bière, tout le monde ensemble. Oui. Les familles de tout le monde sont là, puis on a bien du plaisir. Et pour la gang, pour les gens qui ne jouent pas au hockey, ben, si ça vous tente de venir voir ça, ça va être le 20 mars. On aura l'occasion de vous en reparler.
D'ailleurs, pour l'instant, ça a toujours lieu, là, parce que là, avec la grève des cols bleus, les arénas sont touchés, dont le Centre Intact Assurance. Mais pour l'instant, on est encore correct. C'est quand même dans un mois. Fait qu'on a hâte de vous y voir.
On vous écoute à 14h, Mme Audrey.
Yes. Bye hey, bye. Salut.
C'est beau, tes cheveux.
Hey, va-t'en.
400$. 400$, personne s'en est rendu compte.
Bye, là.
Ouais, c'est ça. Les Cowboys fringants, les maisons toutes pareilles sur les ondes de boulevard. Pascal CV s'en vient.